matinale, soyez les bienvenus avec Leïla, comme vous l'avez dit, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau, Daniel
Bonjour.
Morin, et nos invités François Berléand et Antoine Dulévy.
Oh là là, Antoine.
Et on n'a pas Jérémy aussi.
Regardez, il arrive.
Bah, Jérémy.
Bonjour. Bah, j'étais là.
T'as oublié de l'appeler.
Attends, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges?
Je peux pas citer de marque.
C'est quoi? C'est chocolat?
Je mange votre âme, Nagui. Comment?
C'est du chocolat,
c'est des légumes. Surtout s'il y a une marque, c'est que c'est industriel, c'est mauvais.
C'est des courgettes, des aubergines.
Exactement. Ouais. Produits locaux.
Toi, le sportif.
Très bien.
Des graines de chai, il en a plein les dents.
Nous.
C'est dégoûtant. Ouais.
Nous allons donc parler de la pièce Par le bout du nez, pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, ceux qui avaient notamment écrit Le Prénom, mise en scène par Bernard Murat, tout ça interprété par François Berléand et Antoine Duléry. C'est un huis clos, ça se passe dans le bureau du président de la République, tout ça au moment de son investiture, juste avant son investiture, il va rencontrer un psy et justement cela donne ce blind test.
Ah, je l'adore.
Bah oui, il faut trouver qui chante.
Non, mais on peut laisser un peu.
Il était Daniel,
oui.
Gérard Lenormand.
Oui. Voilà. Oh, si j'étais président.
J'étais plus sur la boîte.
Président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président.
Qui chante ça?
Daniel.
Oh. Daniel.
Non.
Qu'est-ce que le son était mauvais.
Ouais.
Ils auraient pu prendre un vrai producteur.
Elle était dans un état. Vous avez vu ces images. Et puis l'anecdote de la robe cousue sur elle,
tellement elle était
serrée et moulant, avec, je crois, pas beaucoup de sous.
Bah, du coup, non.
Tout ne peut pas passer. Quoi. C'est ça. C'est ça, c'est le point.
Surtout, c'est pas pour faire de
travail. Daniel,
Tanguy. Leïla.
Président de la République.
J'étais encore sur la robe de Marilyn en train de rêver, donc du coup, j'ai pas été assez vite en fait. C'est histoire de dessous absent.
Je te distrais.
Mais ça perturbe. Je pense qu'à 11h26, ça devrait
être. Attends, oui, c'est vrai. L'intro, elle est géniale, ouais. Elle est géniale, l'intro.
Président.
C'est résident, on est d'accord, pas président.
Président.
Ouais, d'accord, République.
Et commencez pas.
Un jour, je t'aimerai moins.
Écoute cette phrase, non?
Tanguy,
Tanguy. Attends, j'arrive, Tanguy, deux secondes.
Ah bon.
Tu veux quoi?
Un jour,
je t'aimerai moins.
Jusqu'au jour
où je ne
t'aimerai plus. C'est pas là.
Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus.
C'est dans le
deuxième couplet. Non, c'est beau, bien plus loin dans la chanson. Oui, il y a la faute de français volontaire pour
l'essence poétique.
Garder, oui, puis garder le côté enfantin. Tu as dit quoi déjà?
Les présidents of the United States of America avec l'homme.
Oh, pff, j'ai tout. Est-ce que tu as le numéro de référence dans le catalogue?
Ben, j'ai écouté
numéro
ça,
SM.
C'était sur un
Spring.
C'était énorme.
Ouais.
C'est vrai, il y a un air
de Spring. Ah, tiens, on ne sait pas.
C'est une lampe.
Et c'était bien ça.
Ils avaient fait Peaches aussi, qui était très très bien.
Très bon fruit. On l'écoute jusqu'au bout.
Bah
bien.
Écoute, quand on aime, on compte pas.
Un, deux.
Qui chante ça?
Ah, Jérémy.
Oh, James Brown, Daniel.
Oui. Ouais. James Brown.
J'allais dire Sinclair.
Le titre.
C'est quoi? Sinclair. Bah... C'est le James Brown français.
Waouh.
Je pense que c'est la première fois que cette phrase a été prononcée.
Je
et le titre Funky President.
Et c'est Daniel qui devine ça parce qu'il est il a un sacré sens du rythme.
Il est funky. Daniel funky.
Daniel est funky swing.
Florence Metallica.
On a joué avec eux il y a pas longtemps, avec elle même je devrais dire.
Ah bon?
C'est un groupe féminin.
Ah tiens.
I'm looking up
Daniel,
Florence
Blanc,
Florence Blanc, trop tard.
Eh bien, oui.
En fait, le problème, c'est qu'on connaît qu'une chanson de ce genre-là.
Non, mais j'ai entendu sa voix là.
Ouais, ouais.
Ça s'appelle Dear Mr. President des Four Non Blondes. Attention, pour l'instant, Daniel est en tête avec 3 points. 1 pour Leïla. Avec 4, pardon. 1 pour Leïla, 1 pour Tanguy. C'est le super banco à 5 points.
Daniel ?
Et c'est pas facile.
Je n'avoue ?
Non. Ah.
C'est français ?
Tanguy ?
Jérémy ?
Non, Billy Joel ?
Pardon ? Florence Parisien, les détecteurs ?
Non ? Florence ?
Ah non, c'est pas ça.
Mais si, bien sûr.
Là, je pense que c'est du piano.
Oui, du piano, il y a une voix.
C'est Ray Charles.
Un point là-bas. Non,
non, ah, c'est vrai.
Écoutez
non,
bien la voix.
Et il y a quelqu'un qui chante. Je l'ai en plus disque.
C'est Bob Marley.
Jackson Brown.
Non, c'est un artiste qui fait beaucoup de bandes originales pour des films, notamment Toy Story.
Ah, c'est Neurocon.
Oui. Oh,
non, non.
Ouais, c'est
oui,
Gain.
Bien sûr.
Il avait fait
Newman.
Exactement.
Randy Newman.
Randy Newman, bien joué, tant que.
Bravo. Sur un râle.
Mais oui, c'était dur.
Bravo.
Victoire de Tanguy Pasturo avec ce blind test de président.
Oui.
Et nous accueillons François Berléand et Antoine Dulé.
La bande originale avec Nagui.
Merci de venir ensemble, parce que déjà on a du mal à vous accueillir quand vous êtes seul, mais on a préféré regrouper les deux acteurs les plus antipathiques que l'on a en ce moment, Antoine Duléry et François Berléand, ouais. Pour ouais. Cette oui, ouais. Pièce. Ouais. Non, rien. Je fais, j'ai le droit de dire ce que je pense, non ?
Bonjour, c'est quoi le problème ?
Bonjour Leïla, comment ça va ?
Ouais, c'est ça, ouais. Mise en scène par Bernard Murat, cette pièce que vous aviez jouée avec François-Xavier de Maison, mais qui n'a pas tenu le choc et qui nous a dit d'ailleurs qu'il préférait s'en aller et laisser le rôle à un autre. C'est vous, Antoine, qui avez relevé ce défi d'être président de la République ouais. En cette période.
En cette période,
avez-vous les 500
C'est bien, c'est très agréable d'être président.
Il ouais, ouais. Y a un petit côté Jacques Chirac dans votre personnage, dans la coiffure très gominée collée
alors,
comme ça.
Alors oui, et en même temps on me dit que je ressemble à Pompidou, hein,
ouais.
Souvent.
Ouais, ouais.
François, il m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit...
Au centre, Pompidou.
Peut-être à cause de mes gros, tous ces sourcils.
Non, mais c'est
donc,
vrai
c'est vrai, on me dit souvent plutôt Pompidou que Chirac. Mais
oui, oui, mais il n'y a plus personne ne se souvient de Pompidou, il n'y a que Berléand qui se souvient de Pompidou, c'est pour ça.
Et moi un petit peu.
Vous jouez juste...
C'est d'une vulgarité...
Vous jouez.
C'est grossier, même
ça n'a pas changé.
Le masque, vous pourriez le mettre ouais. Sur tout le visage, François, parce que.
Ouais, d'accord. Ouais.
Merci. Vous jouez jusqu'au.
Qui est l'invité mystère ?
Vous jouez cette reprise donc de cette pièce jusqu'au 1er avril par le bout du nez.
Non, jusqu'au 30 avril. Déjà. Faut vraiment commencer à travailler les fiches maintenant.
Écoutez.
Oh la vengeance.
Voyez directement avec Alain, votre gentil attaché de presse. Ça va jusqu'au 30, vous êtes sûr ?
Oui.
Jusqu'au 30 avril. Très bien. Ok, bon, on va corriger tout ça. Il va falloir tenir hein, jusqu'au 30. Cette pièce par le bout du nez, extrêmement drôle, une sorte de. Enfin, c'est carrément un huis clos dans le bureau du président. La situation
un
est simple.
Un deux clos. On est deux.
Vous vous retrouvez dans ce bureau. Non, ça va être long. D'autant que dans la pièce, c'est exact. Le personnage du psy joué par François Berléand fait exactement ce genre de vanne, de blague. Il vous interrompt, il fait des jeux de mots.
Il m'interrompt toutes les deux minutes. C'est vraiment une psychanalyse poussée en une heure.
Enfin,
concentrée en une heure et demie. Mais très drôle, évidemment, et très intelligent, parce que c'est les auteurs du prénom qui ont écrit ça, donc c'est brillant. Et effectivement.
Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière.
Voilà. Et j'ai la chance d'être psychanalysé donc, par mon camarade Berléand, qui effectivement, me pousse dans mes retranchements permanents.
C'est
pour,
ça.
Pour essayer de me guérir de cette démangeaison nasale qui m'empêche de faire mon discours d'investiture. Donc je suis paniqué. Parce que
non,
je
on arrête de dire d'investiture, ça n'existe pas.
Oui, mais c'est
américain.
Oui, mais c'est dans la pièce.
Oui, mais il faut dire c'est des discours à la télévision.
Oui, alors discours à la télévision, c'est le nom de cette presse.
Ouais, ouais.
On va voir avec Alain. Ça fait quand même deux cartouches ouais. Pour Alain.
Enfin bon, ils ont écrit ça. Voilà, donc j'ai un discours. Et heureusement, il va me soigner au bout d'une heure et demie. Je vais pouvoir faire mon discours.
On est exactement entre l'élection et la victoire donc de ce président de la République et sa nouvelle victoire et ce discours d'intronisation à la télévision. Vision, peu importe, en tout cas, qu'il doit préparer. Et son problème est que non seulement il est une démangeaison, mais qu'elle provoque une forte grimace,
voilà.
Et qu'il veut des médicaments pour soigner cette grimace. Et c'est là où vous intervenez, François. C'est pas les médicaments ou la chimie qui peuvent soigner ces maux. C'est en l'occurrence un travail. Il faut aller à la source du problème. Et voilà, la source, elle est dans sa tête.
Voilà, c'est
et pas
ça.
Dans son nez.
La source, elle est. Faut faire le retour à l'enfance. Faut faire tout, enfin faut faire une psychanalyse, mais rapide, hein, parce
Express,
que c'est 1h20. Donc moi, je suis un génie, hein, dans la, évidemment, dans la pièce. Enfin, puisque,
dans la pièce.
Arriver, oui, pas dans la vie.
Non.
Et donc j'arrive, après on peut pas non plus déflorer le sujet, voilà, disons que je fais une analyse en 1h20 et est-ce que ça a marché ou pas marché, nous le saurons à la fin.
Et vous dites que vous êtes très à l'aise, François, dans le rôle, dans ce personnage, parce que. La psychanalyse, c'est quelque chose qui vous parle.
Oui, ça me parle, parce que j'en ai fait une, mais surtout j'ai été suivi par des psys depuis que je suis tout petit, donc voilà, je connais un petit peu le boulot, et surtout, j'ai pu, quand j'ai commencé à travailler en répétition le personnage, j'ai pu penser à quelques personnalités croisées au fur et à mesure de ma vie. Moi, ça a commencé à 11 ans, hein, donc de 11 ans à 45 ans, donc j'ai été suivi par des psys.
Plutôt des silencieux ou des...
Parce que... ça dépendait. Ah, ouais. Au départ, quand on est gamin, c'est plutôt... ils parlent.
Ouais.
Et puis, au fur et à mesure, quand on arrive au lacanien, là,
Il vous écoute, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Parlez-moi de votre enfance, et
voilà.
Puis là,
parlez-moi de votre enfance.
Mais on laisse le flou.
Dans la pièce, ce qui est intéressant, c'est que je lui pose vraiment des questions auxquelles il ne peut pas s'attendre. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a quelques psychanalystes qui sont venus voir la pièce et qui étaient morts de rire parce que, effectivement, c'est impossible de couper quelqu'un comme je le fais en faisant des blagues pourries, quoi.
Est-ce qu'à l'inverse, des présidents de la République sont venus?
Alors, il y a eu un président, oui, il y a
l'actuel président
Macron, oui, qui est venu nous voir une semaine avant le premier confinement.
Ah, c'est à cause de vous, alors. Ok, bravo.
Oui, alors c'est ça qui était drôle, parce qu'on lui dit, alors, est-ce qu'on va être confiné ou pas? Non, pas du tout, pas trois jours après, c'était annoncé.
C'est-à-dire que non seulement il vient au théâtre, il vous voit, et là il dit, il faut fermer tous les théâtres.
C'est grâce à nous, si les gens étaient en vacances.
Est-ce que la question s'est posée?
Enfin, c'était avant moi, c'était pas de mon temps.
C'était FX, c'était FX de maison. Est-ce que justement, lorsque François-Xavier a laissé la place à Antoine Duléry, est-ce que vous êtes posé la question de devenir président aussi? Ou alors vraiment, comme le dit Layla, vous êtes tellement attiré par la psychanalyse que vous préférez rester dans le rôle du psy?
On m'a proposé au départ de reprendre le rôle
du président.
Mais à un moment, il fallait tellement changer le parce que moi, perdre mon père, normalement, le président de la République dit qu'il a perdu son père au moment des primaires.
Ouais.
Donc, moi, mon père, il est quand même mort depuis un certain temps. Donc, je ne cache rien, je vais avoir 70 ans. Donc,
C'était pas crédible.
C'était pas très, très crédible.
D'accord.
Parce que moi, quand j'ai lu la pièce la première fois, quand on vous a reçu pour cette pièce, j'avais lu le texte. Et en fait, en lisant, je me demandais qui allait incarner qui. Et j'imaginais que vous alliez être le président.
Ah,
en fait.
C'est vrai?
Ouais, en lisant.
Franchement, ouais. François-Xavier de Maison fait psy.
Il pourrait faire psy.
Alors que j'ai la barbe, j'ai tout. Moi,
mais il pourrait faire psy, vous pourriez... c'était plausible, complètement
plausible. Ah oui, non, mais c'est plausible.
C'est un mix entre Victor Hugo et Freud.
Totalement, non, mais c'est vrai.
Avec Victor Hugo
et
Freud.
On est d'accord. Ouais. On est d'accord.
Très saisissant.
Et alors, ce qui est fort dans cette pièce, c'est qu'on sent en effet qu'il y a un travail de véritable psy, ou en tout cas, vous avez la musique du jeu du psy, voilà, quelques codes, et qu'en même temps, il y a aussi, dans le président de la République, des phrases qui sont dites et qui trouvent écho, et qui font éclater de rire la salle aussi, dans le comportement d'un président de la République, avec ses obligations de retour d'ascenseur après avoir été élu, faut bien aider.
Oui, c'est marrant parce qu'on voit vraiment l'intérieur d'un président, voilà, qu'est-ce qu'il est, comment il agit à partir du moment où il est président, effectivement, il faut qu'il remercie ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Il faut qu'il fasse ce discours avec, effectivement, impossible n'est pas français. Il paraît qu'il y a
quelqu'un l'a repris. Oui.
Et donc, c'est assez amusant. Il y a pas mal d'échos avec la vraie vie électorale d'aujourd'hui, quoi.
Et ce qui est très drôle, comme j'ai joué à 2 ans d'intervalle, donc les deux.
Allez-y.
Hein?
Comment? Non, allez-y. Ils vous ont quoi je...
Oui.
Faut y aller, il y a un moment, faut y aller.
Non, mais pourquoi ils parlent, quoi, ça veut dire quoi et comment
bah, ça veut dire que là, vous êtes très très lent, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais non, mais parce
que...
En fiction, on peut jouer ça, c'est pas possible.
On comprend le montage.
Non, mais non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Ah, si, on est en plein direct.
Non, vous voulez dire qu'il y a certaines répliques qui ont une autre dimension.
Non, c'est-à-dire qu'il y a une résonance maintenant qui est absolument incroyable, notamment les hyènes. Et ça, ça fait rire, alors que ça faisait... rire un tout petit peu. Là, c'est vrai qu'en ce moment, avec les nombreuses défections que peuvent avoir certains candidats, ça résonne et ça fait éclater. Effectivement, le impossible n'est pas français que Zemmour, paraît-il, dit à la fin de ses discours.
C'est ça. Mm-hmm.
Ça fait rire aussi beaucoup. Donc c'est
le succès de cette pièce voit beaucoup à l'extrême droite, en fait.
Le succès de cette pièce, c'est qu'elle joue avec des codes que l'on peut comprendre, les codes d'un psy et d'un président de la République et d'un discours qu'on a l'habitude d'entendre, et puis de rentrer comme ça dans la tête en effet de quelqu'un, dans son enfance, dans toutes les fissures qu'il peut accumuler et qui peuvent d'ailleurs expliquer sa volonté d'être au pouvoir, de se venger de quelque chose et de vouloir tuer le père, pour reprendre une expression, c'est Lacan.
Oui, c'est ça, oui, absolument.
Freud,
bah, non, bah tuer le père, non, faut tuer
tous,
le père, quoi.
C'est,
oui,
voilà, c'est Dark Vador.
C'est comme ça, oui.
C'est ça.
C'est ça, il y a une belle chose aussi sur les... sur les Belges aussi, sur les...
Sur France Inter.
Sur France Inter, oui.
Vous en parlez,
oui,
France Inter.
Oui, il y a un truc sur France Inter.
Donc, voilà,
c'est vrai.
Est-ce qu'il faut
c'est
être,
rigolo,
est-ce,
ça.
Est-ce qu'il faut être né à Namur pour venir...
C'est quoi cette mode des chroniqueurs belges.
Bah, Florence vous expliquera après. Tu es né à Namur ou pas, Florence?
Pas du tout, à Bruxelles.
À Bruxelles même.
Moi, je suis née là où on allait à pénicilline, ouais.
Voilà. Et elle n'est pas née à Bruxelles, mais elle va bien dire à quel point elle vous aime pas, en l'occurrence. C'est Morgane Gadi. Alors, vous n'aimez pas François Berléand et Antoine Duléry.
Figurez-vous, François Berléand, pour votre venue, j'ai décidé d'aller à contre-pied de la façon dont on vous traite dans cette émission. Parce qu'il y a les vannes que Nagui fait à l'antenne et il y a ce qu'il dit hors antenne. Et là, je vais vous épargner parce que personne ne mérite d'entendre ça. Et quand je dis personne ne mérite d'entendre ça, je parle de Nagui. Hein. Personnellement, je fais toutes les émissions avec des boules caisses sous mon casque en se reposant. Ça fait un an et demi que je le vois juste bouger les lèvres, c'est délicieux. Donc, dans un pur esprit de contradiction et pour faire chier Nagui, ce qui devrait être un sport reconnu, genre, et toi, pour le bac sport, t'as fait badminton ou t'as fait chez Nagui? J'ai fait chez Nagui, j'ai eu 40 sur 20. Aujourd'hui, François Berléand. Eh ben, moi, j'ai décidé de vous aimer. Alors oui, ce n'est pas le titre de ma chronique.
Bah
mais vous allez faire quoi? Me sortir du studio de force? J'achète mes légumes au même endroit qu'Edwin Plenel. Je vous déconseille très, très fortement de me violenter. Parce qu'au prix de 2 potimarrons, je peux tout raconter à Mediapart. Et Nagui, avouez que toutes ces années sans viande pour se faire détruire par 2 légumes de saison, c'est un peu dommage. Donc, aujourd'hui, 17 février 2022, pour
attention,
la première fois dans la bande originale,
oui.
François Berléand, je voudrais rendre hommage à l'acteur. Oui. Mais surtout à l'homme d'exception qui se trouve devant moi. François Berléand, comment ne pas vous aimer? Surtout que, depuis grâce à cette pièce et aux différents confinements, votre visage a été sur toutes les colonnes Maurice de Paris, et ce, pendant 2 ans et demi.
C'est vrai.
La plus belle des propagandes pour le plus talentueux des hommes qui nous donnait l'impression de vivre dans une dictature. Oui, la dictature du bon goût. Que chacune de nos aspirations nous prouve que François avait raison. Que les efforts de François Berléand prouvent qu'il n'était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté, de la fraternité et de la paix plus précieuses que les diamants en argent ou en or. Alors c'est le discours de Nelson Mandela sur Martin Luther King. Oui, mais je trouve que c'est absolument pas exagéré. Antoine Duléry, vous êtes né en 59 et pourtant il aura fallu attendre 2022 avant de commencer à vivre vraiment en jouant à la télé et au théâtre aux côtés de François Berléand. Mais ne parlons pas trop de François Berléand, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est la première fois, Antoine, que vous jouez le personnage d'un président. Franchement, Emmanuel Macron aussi, vous vous en sortez vachement mieux. À ce propos, vous savez qui est en tête des sondages de mon cœur? François Berléand. Antoine vous confie en interview que celui qui vous a poussé au début à faire de la scène et qui vous a encouragé, c'est Bernard Murat. Non, je plaisante, c'est François Berléand,
bien sûr.
Qui d'autre? Cinéma, théâtre, série, one man show, vous êtes un touche-à-tout, Antoine, et vous touchez même à la grâce puisque vous donnez la réplique à François Berléand. Et sans vouloir en faire trop sur ce que je ressens pour François Berléand, disons le plus simplement du monde que si j'étais croyante, il serait Jésus, que si j'étais indienne, il serait une vache. Et si j'étais hypochondriaque, il serait mon masque face à l'absence de beauté du monde.
Oh. Mais ça va pas.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Je vous ai vengé d'un an et demi, Nagui.
Merci. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est François qui mange chaud.
Ah, puis tu envoies le rayon comme ça. C'est gênant.
C'est pas grave.
Bah, c'est beau aussi.
C'est gênant. Mais...
Moi, j'aime bien.
L'amour que tu as pour ton grand-père est bouleversant. Merci Morgane Gadi, avec plaisir.
hein, c'est gentil parce que c'est vrai que là, l'autre, là, il n'est pas très sympathique.
Non, mais en même temps, qui a commencé, François Berléand, regardez votre comportement, ce que vous faites, votre manière de jouer. Franchement, je ne vois pas la raison pour laquelle nous serions élégants avec vous.
Il va partir.
C'est quoi la couleur du pull, là? C'est quoi ça?
Vous n'aimez pas le.
Vous c'est bleu pas, les républicains.
Vous n'aimez pas le bleu de la France, monsieur.
Ah, c'est le bleu de la France.
C'est le bleu de la France.
Vous mangez bien le marine.
C'est ça.
Non, merde.
C'est trop tard. Il s'est outé.
On a léché.
Trop tard.
Quelle horreur, mon Dieu.
Reprendre en rôle. Est-ce que vous avez vu, Antoine Duléry, la pièce avant de reprendre son rôle?
Non, je l'ai pas vu. J'ai vu après une captation que m'a montré François, parce que je voulais voir l'ensemble de la pièce, mais je ne l'avais pas vu au théâtre.
Est-ce que ce n'est pas gênant, justement, plutôt que de créer votre propre jeu et personnage, de voir ce qui a été fait avant?
Non, parce que j'avais besoin pour le rite, c'était intéressant de le voir, mais ça ne m'a pas du tout, amené dans un sens ou dans l'autre, parce que François-Xavier et moi, on est très très différents, déjà physiquement, etc. Donc moi, j'ai essayé de faire un président qui me ressemble. Voilà. Non, mais je suis très content, parce que ce qui m'a vraiment plu, c'est le rôle, quoi. Voilà, donc j'ai pas de soucis par rapport à ça. Puis de travailler avec François, ça me plaisait énormément, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, mais on n'avait jamais travaillé vraiment ensemble.
Parce que le rôle permet.
J'étais content.
Le rôle permet de passer par tous les états, de la suffisance à la fragilité.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment un président qui est odieux au départ avec ce psy dont il a rien à foutre, et finalement il va se faire convertir par sa psychanalyste, et finalement il va évidemment à la fin du spectacle il va guérir. Donc c'est vachement intéressant. Il y a d'abord une lutte.
Ne le dis pas.
Ça sera plus jusqu'au 30
avril. C'est passé 24 fois à la télé.
Donc ce qui est bien, c'est qu'il est contre, et puis voilà, il y a plein de trucs à jouer. C'est vraiment celui qui est contre la psychanalyse, et puis finalement on va dire il y a beaucoup de retenue, et puis après il va se laisser aller. Donc il y a effectivement tout un cheminement de jeu,
une évolution
qui est intéressant. Il y a plein de couleurs à jouer. C'est ça qui m'a intéressé dans l'objet de reprendre ce spectacle à la place de notre camarade de maison, qui était
qui est enfin
bien,
qui lui est enfin libre maintenant. Ça y est, enfin libre. On l'a revu là, il revit. Il m'a dit enfin.
Il est détendu.
Et il y a un parallèle. Il y a un parallèle avec vous, parce que c'est aussi un comédien, un président. Un président joue le rôle, tient le statut, en tout cas cette fonction. Et au moins dans les premiers temps, on peut imaginer que il joue à être le président. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Exactement,
bien sûr.
Il découvre son rôle. Et puis moi, je voudrais aussi qu'il... Parce qu'il y a un passage dans la pièce où vous évoquez toutes les expressions avec le mot « nez ». Par le bout du nez, c'est le titre. Mais là aussi, il y a beaucoup d'expressions comme « avoir le nez » ou alors le nez de Pinocchio aussi.
Avoir quelqu'un dans le nez.
Quelqu'un dans le nez, ainsi de suite.
Montrer le bout de son nez.
Et c'est vrai que le... tout
être
tient
né
là-dessus.
Quelque part.
Et vous le menez par le bout du nez. C'est vraiment ça aussi.
Oui, c'est ça. Le titre, c'est ça, c'est pas loué.
Tu redis, Jérémy, l'expression, tout le monde n'a pas bien entendu.
Être né quelque part.
Être né quelque part.
Être né quelque part.
Vous l'avez.
Et oui, il me monte, il me domine complètement, mais c'est ça qui est amusant. Je deviens d'ailleurs pratiquement un petit garçon à un moment donné. Je remonte dans mon enfance.
Non, mais ça devient presque attendrissant. On peut tomber dans la compassion, en tout cas pour ceux qui sont dans ces rôles. Il n'y a pas que le président de la République, mais enfin ceux qui ont des rôles comme ça de responsabilité au plus haut niveau d'un État. On peut y mettre des ministres, voire des candidats d'ailleurs de l'opposition, peu importe. Mais de se dire quel est le gouffre, le fossé qu'il y a entre l'être humain, ses fissures, ce qu'il a réglé personnellement, et l'image qu'il donne, le discours qu'il tient, et la manière dont il proclame aussi des mots. Parce que l'exercice du discours, ça part de là aussi.
Ça part de là, exactement.
C'était George V avec qui avait son bégaiement. Là, il y a la démangeaison.
Là, c'est la démangeaison, ça s'appelle le discours du roi. Mais c'est vrai, comme vous dites, c'est que c'est vraiment un rôle, quoi. Et là, il vient d'avoir le rôle du président.
Ouais.
Donc c'est vraiment très proche d'un acteur.
Comment
et il ne peut pas faire son discours, donc il est comme un acteur qui est incapable de rentrer sur scène.
Est-ce qu'il y a une part d'improvisation, François Berléand, dans ce genre de pièce, ou au contraire, comme c'est une comédie, c'est millimétré, il faut que le mot arrive au bon moment.
Oui, il y a un rythme à soutenir, et non, c'est impossible d'improviser. On a improvisé en répétition, on a changé des choses, etc., en répétition, mais c'est impossible dans le jeu. Alors, il peut y avoir des trous, on peut sauter une réplique, ouais. mais c'est pas... C'est pas voulu, quoi.
Changer des choses, ça se fait avec les auteurs. C'est-à-dire, ils sont là avec vous en répétition.
Bien sûr, oui, tout à fait. Mais la pièce, c'est pas une pièce de la Patellière de la Porte. C'est une pièce espagnole de Ramón, on l'a.
Adapté par
Electo, et c'est adapté par
Electo de Ramon Electo. Madola.
Voilà, c'est ça. Et la pièce, à l'origine, durait 50 minutes, et eux ont fait une adaptation d'une heure 20, 25, etc. Mais ce qui est drôle, c'est quand Ramon est venu à la première, donc du temps de maison, il est venu encore là, il a réécrit sa pièce par rapport à l'adaptation. Ah, alors, je sais pas, il a dû, évidemment, comme c'est une andouillette, il a dû mettre du chorizo, mais sinon, c'est... Non, mais j'en sais rien.
C'est une bonne promo, ça. Allez voir l'andouillette. J'ai pas précisé que ça se passe au Théâtre Libre, qui se trouve à Paris dans le 10e. Vous avez déjà fait une tournée et des spectacles en province, ou des festivals. Vous avez l'intention de repartir tous les deux aussi, c'est prévu?
Oui, c'est pas, à partir de septembre jusqu'à décembre.
Mais est-ce qui est fort, est-ce que le soir des, non, c'est un dimanche soir, vous me direz, mais la veille des élections, vous allez jouer,
oui, on va jouer, oui.
et le surlendemain aussi des élections, oui. ça va être particulier dans ces représentations.
Bah ça va être, oui, ça, en tout cas, je sais pas, le concours c'est quand?
24.
C'est mi-avril.
Avril, ouais. Ouais.
C'est ça, 24 avril, ouais.
Oui, on jouera.
On jouera le 24 avril.
On jouera le dimanche, ça va être amusant.
Donc ça va être drôle, seulement ce sera.
Sauf si nous
vous variant. Vous jouez en matinée, vous ne jouez pas
le résultat. Oui, mais on jouera le mardi, le lendemain de l'élection.
C'est ça.
Donc si c'est un nouveau président.
C'est encore plus crédible.
Ce sera encore plus drôle. Quoi.
Ouais. Ceci dit, même l'actuel président qui, s'il se représente, quel suspense, ça peut donner aussi. Est-ce que vous allez rajouter quelque chose?
Je suis pas sûr qu'il se représente quand même, si vous croyez.
Non, ça saurait.
En tout cas, il a les 500 signatures, ça on le sait.
Lui.
Il y a beaucoup, je suis loin.
C'est pas le cas de tout le monde.
Théâtre Libre avec François Berléand et Antoine Duléry par le bout du nez.
Et pardon, mais c'est le théâtre le plus confortable de Paris. Je tiens à le dire parce que.
Vous
c'est très important.
Les sièges pour le public.
C'est le théâtre le plus confortable.
Mais vous êtes allé essayer les sièges?
Bien sûr. Je sais toujours les sièges, moi, pour
le B12.
Pour savoir si le spectateur va être.
Bien.
Et donc, il y a des fois, je me dis, faut aller plus vite parce que c'est vraiment, c'est pas très confortable. Alors que là, on peut prendre tout le temps qu'on veut parce que c'est très, très confortable.
Et c'est très drôle, surtout, cette comédie, adaptée par les auteurs du prénom. Voici Florence Manet.
Salut tout le monde, allez, aujourd'hui je vous parle d'amour, puisque ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, je crois vraiment que c'est un mec bien, en tout cas ma meilleure amie a l'air très heureuse avec. Le type, il est tellement bien gaulé que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je pouvais entendre son érection. Alors jusqu'ici, ça se passe plutôt bien, on a juste eu un petit moment de flottement quand il m'a demandé combien de partenaires j'avais eu avant lui. Combien de partenaires j'ai eu avant toi? Selon les forces de l'ordre ou selon les manifestants? Non, c'est faux évidemment, je suis pas en couple pour la Saint-Valentin. J'étais à une soirée où mon ex était aussi, j'étais frustrée parce que je l'ai manqué. Faut vraiment que je retourne m'entraîner au stand de tir. En vérité, ma vie amoureuse, c'est Melun. Voilà, il se passe rien. Enfin si, un vieux de temps en temps. Et quand ça se passe bien, ma vie amoureuse, c'est Maubeuge. C'est gris, humide et il y a un zoo. En vrai, j'ai peur de m'engager. J'ai peur de m'engager, c'est problématique dans ma vie sentimentale et encore plus quand je dois prendre un rond-point. Tout ça parce que je suis tombée il y a quelques années sur la mauvaise personne. Je suis jamais vraiment parvenue à me recaser depuis, mais enfin maintenant je peux donner des conseils aux autres meufs par exemple. Voici un indice pour reconnaître un mec toxique. En général, je sors avec. Non, j'ai rien fait pour la Saint-Valentin. De toute façon, j'en ai rien à foutre. La Saint-Valentin, c'est un coup des labos pharmaceutiques pour vendre plus de pilules le lendemain. De manière générale, je l'aime bien, mon célibat. Évidemment, il arrive qu'il me pèse un peu. Parfois, je me sens plus seule qu'un neurone dans la tête de Pascal Praud. Et on est nombreuses dans ce cas. Ce sentiment de solitude touche beaucoup de femmes. Un peu comme Jean-Jacques Bourdin. Mais en vérité, je me rends compte que j'ai toujours trouvé le sexe plus facile que l'amour. Moi, j'ai fait l'amour avec des filles, des garçons et parfois même des sentiments. Voilà. Je dis ça, mais ma vie sexuelle en ce moment, elle est pas ouf non plus. La seule chose de positive dans ma vie sexuelle pour l'instant, c'est mon frottis. L'amour, je lui ai jamais fait confiance. Il s'installe, il essaye de te changer, et puis il s'en va et il laisse place à la désolation. Ah non, pardon, ça c'est la colonisation. Maintenant, Florence, un jour tu rencontreras la bonne personne pour toi. Pense au mot de Saint-Exupéry. S'aimer, c'est regarder dans la même direction. Ouais, enfin, Saint-Exupéry, il a aussi écrit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. S'il les avait ouverts, ses yeux, ça lui aurait évité de se cracher en avion comme un con. Bon. Et les gens qui me draguent, il y en a quand même beaucoup, hein, je tiens à le dire. Alors, Jérémy, vos chroniques marchent mieux que les miennes, mais en soirée, c'est moi qui fais le plus de vues. Sur les réseaux sociaux, je suis pas mal sollicitée, je reçois beaucoup de messages d'inconnus et de photos de bites. Dernièrement, un type m'a envoyé un poème, mauvais, vraiment. Merci Jean-Claude, t'as pas plutôt une photo de ta bite? Un autre mec.
Il avait peut-être écrit avec.
Un autre mec m'a écrit. Un autre mec m'a écrit qu'il est tombé amoureux de moi juste en voyant en juste en me voyant en vidéo. Mais quoi, si je fais une sextape, tu vas croire que c'est toi le père de mon gosse? Bon, allez, je suis méchante, hein, mais c'est bizarre, je trouve, de faire des déclarations à des gens qu'on connaît pas. Ah, Jérôme Cahuzac, ça vaut pas pour les impôts. Allez, pour terminer, souvenez-vous ceci, l'amour, c'est comme un accident de voiture. Voilà.
Merci. D'accord, t'as choqué François Berléand. Ah, oui. T'es choqué, François.
On est sur le service public quand même.
Non, regardez, je suis un petit Bambi.
Et alors, regardez. Oh.
Et Florence Mendez, vous êtes tous les jeudis au Métropole, bientôt à Lille, Marseille, Tignes et Bordeaux. Et puis il y a la tournée aussi des humoristes France Inter. Ça sera à Montpellier dimanche à Corum à 16h.
Ces humoristes France Inter raillés, vannés dans la pièce, justement, par le bout du nez, avec ce clin d'œil fait à la Belgique, justement incarné aujourd'hui par Florence Mendez. Et on a des quotas, on est obligé. Il y a un moment.
Mais c'est ça, c'est, ouais, c'est ça. Mais moi aussi.
On ne peut pas faire
autrement. Mon grand-père était belge, ça va. J'aime pas.
C'est tolérant. Par rapport à ça. Pour une fois que François Berléand est tolérant. cette espèce de blocage de constipation émotionnelle, je ne sais pas comment l'appeler. C'est pas un tic.
C'est pas un tic. Je vous interdis de dire tic.
C'est pas un tic.
J'ai une démangeaison.
Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que d'abord, quelqu'un vous a expliqué que c'était possible que d'un coup, il y a un blocage psychologique?
Je pense que tout est possible, tout est possible. Là, il n'a pas été assez aimé, enfin voilà, tout ce qu'on va apprendre tout au long de la pièce. Donc je pense que oui, tout est possible. Bon là, c'est un peu exagéré parce qu'il faut que ce soit
une caricature.
Amusant. C'est une caricature de l'impossibilité de faire sa fonction de
président. Le stress de ce discours, le premier stress de ce discours, à la nation en tant que président.
Donc, c'est effectivement, l'autre, il bégayait, et là, lui, il
a... À propos de stress, il y a... Il y a l'énervement de la sonnerie, c'est ça. Ah, le téléphone, c'est Eye of the Tiger qui sonne
pas,
et qui
vous téléphone.
Et ça, Smoke on the Water.
Notre camarade, François, déteste ça.
Est-ce qu'il y a, avec toutes les représentations que vous avez faites, le public rit, entre guillemets, aux mêmes endroits, au même endroit, pardon, non, aux mêmes endroits, ils ont plusieurs.
Aux
mêmes endroits.
Ouais, c'est ça.
Oui, oui, aux mêmes endroits.
Non, non, est-ce qu'il y a des vannes qui ont plus d'effet certains soirs que d'autres?
C'est-à-dire que...
Ou l'efficacité fait
moment,
que...
C'est ce que je dis. En ce moment, il y a des rires sur, qu'on n'avait pas il y a deux ans.
C'est parce que l'actualité rattrape parce que l'actualité, la fiction.
Mais après, bon, il y a des salles qui sont plus ou moins...
confortables.
Gay, voilà, qui plus ou moins portées sur le rire. Et c'est vrai qu'il y a des... Bon, bah, le vendredi, le samedi, le dimanche, comme c'est très très plein, là évidemment les gens éclatent de rire, mais même il y a quelquefois des moments où on se dit tiens ben, on fait un temps pour le rire, ah il n'y en a pas, bon ben alors, on continue. Donc ça dérite, c'est assez rigolo, mais c'est votre métier, c'est votre savoir-faire. Moi, c'est un vrai plaisir de faire ça justement.
Vous avez toujours ce même plaisir en ayant joué cette pièce de nombreuses fois
et... On l'a joué 30 fois là pour l'instant.
Ouais. Non, mais vous l'avez joué avant.
Moi c'est un rôle que j'adore. Mais vraiment, c'est un rôle qui me plaît profondément, parce que c'est lui qui dirige les opérations, quoi. C'est ça qui est drôle. C'est que d'un côté, il y a le président de la République, donc on est dans une espèce de monarchie républicaine, et donc c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Et en fin de compte, c'est le psy qui a les pleins pouvoirs. C'est lui.
Et puis il est très posé par rapport à votre énervement, votre surexcitation, nervosité physique.
Paniqué parce qu'effectivement, l'heure tourne. Il faut qu'il me guérisse. Il me pose des questions à la con. Il veut que je lui parle de mon enfant. J'en ai rien à foutre, donc je m'énerve. Mais quoi, je vais pas vous parler de mon enfance là maintenant.
Non, mais vous partez dans la pièce, vous tapez sur la table. Enfin, c'est.
J'en peux plus. Je veux qu'il me guérisse. Je veux qu'il me donne surtout des médicaments. Au départ, il y a que ça qui m'intéresse.
Fils de charcutier, destiné à reprendre la charcuterie de la famille.
La charcuterie Boléon, voilà. Donc je lui demande, est-ce que vous pensez vraiment que l'andouillette a quelque chose à voir avec mes démangeaisons? Je ne comprends pas où il veut aller. Et effectivement, après, je vais me laisser faire. Mais il y a cette résistance qui est très amusante à faire.
La rumeur dit...
Et lui, il reste très très calme, évidemment.
Voilà, la rumeur dit que vous avez voulu continuer ce rôle, François Berléand, parce que vous êtes assis tout le long et que c'est beaucoup fatigant.
C'est pas vrai, des fois je suis debout.
Une fois.
Ben ouais, mais faut pas se tromper.
Il a un claquage.
C'est vrai que la prochaine pièce que je vais jouer, c'est sur un télésiège.
Un trampoline.
C'est sur un télésiège.
Mais non.
Très, très
pendant
bien.
Une heure et demie, ouais.
Oui. Je l'ai lu.
Donc c'est pas mal ça.
Mais c'est quoi cette pièce?
C'est canon.
C'est une pièce de Sébastien Thierry, mais c'est bien.
Il y a des cascades. Il va falloir aller d'un télésiège à l'autre.
Voilà. Ah non, c'est un télésiège qui est en panne. Voilà.
Tout se passe sur un télésiège.
J'ai vu une première version.
Pas mal.
Mais tu connais la pièce?
Je connais la pièce. Je l'ai lu, Monsieur Nagui.
Mais elle s'appelle comment?
Ben je peux pas vous le dire.
Télésiège.
Mais pourquoi Télésiège?
Non, je pourrais, pourquoi tu l'aurais lu?
Tu devais jouer? Pourquoi je l'aurais pas lu?
Vous êtes seul en scène ou pas?
Non, les trois.
On était quatre à l'époque, donc c'est moi qui ai sauté.
Non. Il n'y a que trois personnages.
On va évoquer la musique dans vos vies, et puis surtout, on va accueillir Alexis Lévrier, maître de conférence à l'Université de Reims sur la santé des présidents et la question de la transparence. C'est évoqué d'ailleurs avec d'autres présidents de la République qui ont eu des fins plus ou moins
tragiques.
Tragiques ou heureuses en fonction de la mort qui leur a été
déconfortante. Mais Félix Faure.
Exactement.
Et Deschanel quand même. Qui était bien atteint,
qui est tombé d'un train. Lui, c'était moins drôle que Félix Faure.
Et qui a été reconnu parce qu'il est, il avait les ongles propres et les pieds propres.
Ah,
ouais, le garde-barrière s'est dit, je le crois quand il dit qu'il est président de la République, parce qu'il a les doigts de pied propres et les ongles faits. Donc
l'analyse du garde-barrière.
Ça doit être quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas du tout un mec paumé.
Ça doit être un président de la République, il est propre.
C'est rigolo.
C'est ça.
À l'époque, je sais pas s'il a les mains propres, mais
Deschanel,
ça va,
c'était le 20e siècle quand même, on se lavait à l'époque.
On est au 21e
moi maintenant. Qui suis du 20e siècle,
vous l'avez déjà à l'époque.
Je me lavais déjà.
C'est vrai que c'est un contemporain de Deschanel. En 78, François Berléand, vous écoutez. It's a qu'est-ce que c'était bien ça, ouais.
Bonnie Tyler.
Hits you when you're down. Vous avez une image particulière en réécoutant cette musique? Ça vous renvoie dans les années
Les femmes.
C'est une femme qui vous a fait découvrir cette chanson?
Non, du tout. Des femmes.
Ah, c'était nombreux.
Dans quelle année ça?
78.
Eh oui, donc c'était la naissance de mon fils.
C'est pour ça.
C'est pour ça.
Et ce sont vos débuts au cinéma aussi.
Oui.
Dans Martin et Léa d'Alain Cavalier.
Voilà, tout à fait.
Grand réalisateur. Ça faisait pourtant quelques années que vous étiez déjà comédien, mais plutôt au théâtre.
Voilà, j'étais dans le théâtre subventionné, donc invisible. J'avais fait quelques petites apparitions. Non, c'était vraiment ma première. Enfin, j'ai fait une apparition dans un téléfilm où j'avais, je sais pas quoi, une demi-journée de tournage. Et là, c'est vraiment là. Donc il va arrêter de parler.
Non mais il est très premier degré.
J'ai adoré.
C'était comme repartir à zéro en fait.
Voilà. Donc j'ai fait ce film. Ça a été mon premier rôle. Et c'était très très agréable.
Antoine Duléry, vous écoutiez vous Laurent Voulzy.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier.
Et ça, c'était votre jeunesse aussi, à écouter vous y.
Ouais, ça, c'est en Bretagne, sur l'île de Bréa, l'adolescence, et ma première fiancée, Fabienne aussi, tu vois. C'est voilà, on écoute ça, et on s'embrasse.
Et l'envie d'être acteur déjà?
Oui. Moi, c'est venu en 75. J'avais même d'ailleurs rencontré Lino Ventura au lycée de Saint-Cloud où j'étais. J'étais tétanisé, mais déjà, je voulais faire ce métier. Donc, 78, oui, parce que je rentre au cours Florent, 78. J'ai 18 ans et je rentre au cours Florent. Voilà.
Avec un parcours hyper classique aussi, vous avez joué vraiment des grands classiques sur scène.
Oui. J'ai fait des. Je suis vraiment commencé par le théâtre, tout ça, au rond-point avec Huster, Barreau, Jean Marais, Le Cid, Lorenzetto. Enfin voilà, j'ai commencé vraiment par le théâtre et puis après il y a eu des petits rôles, des moyens rôles, des trucs. Enfin voilà,
le
parcours classique.
La télévision aussi.
La télévision.
Lily Petite, c'est ça?
Pardon?
Lily Petite à la télévision.
Oui. Oh là là, ça c'est le premier. Oui, je crois que c'est le premier film que j'ai fait. Lily.
Et au cinéma, celle qu'on n'a pas eue.
Pascal Thomas. Premier rôle là, avec Daroussin et tout ça. Oui. C'est vraiment une petite participation, mais c'est mes premiers pas comme François avec Cavalier. Moi, c'est Pascal Thomas qui me donne ma première chance.
En 96, François Berléand, vous écoutiez Coolio. C'est fou d'être aussi désagréable et d'écouter de la bonne musique. Comment vous expliquez cet oxymore?
Non, c'est parce que, à vrai dire, j'écoutais. On m'a demandé, qu'est-ce que j'écoutais.
C'est le principe de l'émission, monsieur, depuis 7 ans.
À chaque fois, on me le demande, donc voilà. Sauf que si vous voulez que le problème, c'est que moi j'écoutais Stevie Wonder plus, n'est-ce pas?
Ok, version originale.
Mais donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme tube cette année-là, et je vois Coolio que j'ai effectivement entendu, parce que je trouvais ça formidable, vraiment bien.
Ça s'appelait Part-Time Lover de Stevie Wonder.
Et on vous retrouve au cinéma dans Capitaine Conan de Tavernier. vous incarniez un commandant, un sombre idiot.
Un crétin parfait. C'est Mercenaire, oui. On est en pleine guerre, mais Mercenaire, mon vieux.
C'est un plaisir de jouer l'idiot parfait.
Oh, bah, c'est parfait. C'est merveilleux. Et puis surtout, moi, j'ai été exempté du service militaire, donc. C'est bien de le faire par procuration et tout à coup d'avoir un grade important. J'ai déjà joué un général, d'empire, tout ça, etc. Donc moi, j'aime bien jouer des rôles de militaires. C'est marrant.
Porter
surtout
l'uniforme.
En Roumanie quand il fait froid. C'est super.
Antoine Duléry, vous écoutiez Joe Dassin en 96.
Oui.
On ira où tu voudras, tu sais. Quand tu voudras.
Alors là, évidemment, il y a un décalage. C'était pas l'année de la sortie, loin de là.
Non, mais Dassin, c'était le slow.
Joe Dassin, là.
C'était parce que j'adorais, c'était le slow le plus long de la Terre. Donc on avait le temps d'emballer.
Ah bah, Eagles Hotel California.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais
aussi
ça. Mais celui-là, il était riche, quand même.
Là, c'était formidable pour emballer, pour draguer.
Ouais, c'est vrai que ça draguait.
Ça draguait terrible.
En 96.
Ça collait beaucoup. Le slow, moi, je danse très, très, très mal. Il y a qu'un truc que je danse, c'est le slow. Donc j'adore.
Il
y a des mecs qui font du rock.
Non, mais danser la sauce, c'est rester debout et tourner.
Oui, c'est pas danser.
C'était génial, le slow. C'est toute notre enfance.
C'est bien que ce soit arrêté aussi.
Moi, je pense que cette chanteuse Bibi qui a repris.
Tout doucement.
Oui, mais c'est exactement la même musique.
Mais ce qui est. Moi, je pense à toutes les filles heureuses que les slows n'existent plus et ne pas subir les mecs qui restent debout plantés avec les mamans.
Il y a le métro, hein.
C'est ça, elle met sans musique.
Ouais, c'est ça. On vous retrouve à cette époque-là dans La Puce à l'Oreille.
Oui.
Avec sur scène Jean-Paul Belmondo.
Oui, ça c'est plus tard. Mais c'est vrai que c'est vraiment important ça. J'ai joué 230 fois La Puce à l'Oreille. Mise en scène d'ailleurs de Bernard Murat.
Bernard Murat, absolument.
Et
Belmondo comme camarade sur scène.
Comme Jean-Paul, formidable, un homme remarquable avec qui je suis devenu très, très, très lié après par la suite jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est une belle aventure d'amitié qui a duré 27 ans avec Jean-Paul. J'en suis très fier.
Qui était un comédien de théâtre aussi.
Comédien de théâtre, oui. Bien sûr.
Parce
bien
qu'on
sûr.
Parle toujours de Belmondo
au cinéma. Non, il a fait 15 pièces de théâtre avant de faire À bout de souffle. Oui, c'est ça, on l'oublie, mais il a fait énormément de théâtre, comme Depardieu. Hein. Depardieu, on pense qu'il a fait que les valseuses. Avant, il a fait pareil, énormément de théâtre. On vient tous du théâtre, enfin pratiquement tous. Donc Jean-Paul venait du théâtre.
Sauf un.
Qui c'est, Alain Delon? Non, Delon, il en a fait.
Il en a fait.
Je ne dirais pas.
Lino Ventura.
Ça marche toujours, le sofa, ça marche toujours.
Mais d'ailleurs, Jean-Paul, puisque vous parlez de lui, c'est lui qui a créé Oscar, le film avec De Funès. Hein? C'est Jean-Paul qui l'a créé au théâtre. Avec Pierre Mondy. Marrant, Pierre Mondy jouait le rôle de Funès et Jean-Paul jouait le rôle de Claude Rich.
En
59.
Super, ouais.
Allez, à ma naissance.
Je voulais juste préciser que le titre de Sea Wonder que vous évoquiez tout à l'heure, je me suis trompé, c'est pas Part-Time Lover, c'est Pastime Paradise.
Je n'ai pas osé te reprendre.
Mais tu peux. En 2013, François Berléand, vous écoutiez.
Là, c'est pointu.
Ouais.
Je ne veux pas être celle qui.
La personne connaît.
Diving with Andy.
C'est doux.
D'où vient, sublime cette chanson, mais d'où vient ce goût et cette envie de l'écouter pour parler de 2013?
Parce que, alors ça n'a rien avec 2013, mais il se trouve que. Non, mais c'est pas.
C'est pourtant le principe, monsieur.
Écoutez. Oui, mais je m'en fous.
Okay. Il y a une de ces ambiances.
Moi,
toi, t'es toi aussi.
C'est un groupe français qui ne chante qu'en anglais normalement, et c'est la seule chanson française.
C'est vrai.
Donc le groupe s'appelle Diving with Andy. Et je suis tombé mais totalement amoureux de ce groupe et j'ai acheté tous les CD et voilà, dès que je peux en parler, et ça tombe bien parce que c'est l'année de ce disque, je me mets en valeur parce que je trouve que la fille a une voix absolument extraordinaire.
Et qu'on n'entend pas assez, vous avez raison. Ouais.
Et en 2013, François, on vous retrouve sur scène dans la pièce Nina avec Mathilde Seigner, mise en scène à nouveau Bernard Murat. Au théâtre Édouard VII, qui est une maison aussi particulière. Édouard VII, vous êtes très attaché à cette maison.
Ah oui, j'ai fait quelques pièces là-bas. Oui, c'est un théâtre qui est très agréable.
Ouais. Et on est bien assis.
Et j'avais ma loge.
Ouais.
Qui étaient les toilettes de la théâtre. La place au restaurant. C'était très 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 agréable. Vraiment, c'est un théâtre avec un rapport scène-salle qui est vraiment très très bon, on est proche du public, c'est un vrai bonheur.
Le lieu où se joue une pièce peut vous faire accepter ou refuser un rôle. L'adresse compte.
François, oui,
L'adresse,
hein. Pas l'adresse, non. Mais,
enfin, boulevard de Strasbourg, c'est un peu pourri.
Non, comme ce que j'appelle l'adresse, c'est l'image, c'est l'image
oui,
du théâtre.
Oui, oui, tu veux dire le.
Ah oui, non, l'ima- oui, l'image du théâtre, oui, bien sûr, oui, oui.
Il y a des théâtres qui vous... Est-ce qu'il y a des théâtres qui portent la poisse? Est-ce qu'on dit, j'irai jamais là-bas parce que ça porte la poisse?
Je crois pas.
Il y avait une rumeur une fois sur un théâtre, mais je vais pas le citer parce que.
Oui, oui, il y en a un, on sait, mais bon, faut pas le dire parce que c'est pas.
Ok, c'est pas sympa pour ceux qui jouent.
Oui, oui,
oui. Avant, il y avait le Reich, les gens n'y allaient pas.
Non, il y a quelques théâtres où on n'a pas envie d'aller, quoi. Mais
encore aujourd'hui?
Oui, encore aujourd'hui, oui. Antoine, parce qu'il y a une histoire, chaque théâtre a une histoire. Donc, il y a un moment donné, on dit qui a joué là? Oh, bah, non,
ça donne pas envie.
Je vais pas aller là-dedans, oui. Voilà.
Non, puis en termes de répertoire, il y a des théâtres où il y a un répertoire, on sait qu'on va s'amuser si on va dans un théâtre, on sait que ça sera plutôt des pièces d'auteur, on sait que ça
voilà,
sera plus.
Ça. Voilà, c'est oui. Différent. Mais pas toujours.
Ça
hein,
peut
pas
changer.
Toujours,
oui. Ah,
bah, ça change.
Avec la programmation,
le théâtre des nouveautés, par exemple, c'est un théâtre qui a énormément changé. Ouais. Avant, il y avait Robert Lamoureux, Jean Lefebvre. Et puis tout à coup maintenant on a des acteurs
Arditi
Leb. Voilà, donc c'est on
non mais ça reste une comédie.
Oui, ça reste une comédie, mais c'est pas, enfin, Jean Lefebvre à l'époque quand il était dans ce théâtre, il commentait tout ce que faisaient les autres, c'était pas très agréable pour les comédiens.
Oui, ouais, il faisait son numéro avant de faire la pièce. Ouais. Ouais. Antoine Duléry, en 2013, vous écoutiez Cat Stevens.
C'est la chanson que je veux à mon enterrement.
C'est vrai ? Ça, c'est en 2013 ?
Ouais.
C'est une blague ?
Non, il peut l'écouter. Bah, tu peux écouter Piaf en 2022 si tu veux.
Ah oui.
Il n'a pas compris la consigne.
C'est ce qu'il écoutait en 2013.
Je vous expliquerai après.
Mais ce qui est difficile, c'est d'écouter en 2013 un titre qui est sorti en 2022. Mais là, en l'occurrence, en 2013, il peut écouter Fred. Si
ah, moi, je pensais qu'il fallait ça à chaque fois. Non,
j'adore.
Ah,
mais alors, j'ai pas.
Oui, oui, ça vous a pas. On est d'accord, on n'a rien compris à l'histoire.
Très, très rien. Oui, oui, Cat Stevens, j'adore. Effectivement, je l'écoute tout le temps, cette air. C'est des airs qui m'accompagnent tout le temps comme ça. Tout le long de ma vie, ça me rappelle des moments joyeux, des moments tendres. Et j'aime réécouter ce gars-là. Donc voilà, 2013, mais ça pourrait être maintenant. Cat Stevens, My Lady d'Aberville, c'est quand même merveilleux.
T'as frotté là-dessus
hein? Oh. Non, je fais un frottis, comme dirait madame.
Votre micro est ouvert.
J'ai frotté à mort.
Oh mon Dieu, 2013.
Sur les slow, hein.
On m'appelait l'écouvillon.
Et 2013, Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre, un spectacle qui vous a mené partout en France, au Festival d'Avignon également. Vous incarnez tour à tour Belmondo, on l'a évoqué, Serrault, Lucchini, Johnny, tout ça grâce à votre don, votre capacité à imiter et à jouer sur scène, passant vraiment d'un personnage à un autre. On avait vu le spectacle déjà à l'époque, avec une facilité et une rapidité dans l'exécution assez impressionnante.
Merci, merci Leïla. Oui, je continue d'ailleurs à le faire encore en tournée, même pendant la pièce d'ailleurs. Ça m'a donné quelques vacances à mon camarade François Berléand. Je continue quelques dates de ce spectacle que je joue maintenant depuis presque 9 ans. Alors, il a évolué un peu, mais quand même, c'est bien.
On en reparlera tout à l'heure. Retour donc à cette pièce Par le bout du nez, François Berléand, Antoine Duléry, donc au Théâtre Libre à Paris, dans le 10e arrondissement. Alexis Lévrier nous a rejoint. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, spécialiste de l'histoire du journalisme et auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, tout ça aux éditions Les Petits Matins. La santé des politiques, la santé mentale des politiques, on n'en parle jamais, de l'enfance, de leur éducation, de leur fêlure et de leur phobie.
Alors la santé mentale, on en a parlé pour Trump, par exemple, puisque le 25e amendement a failli être invoqué plusieurs fois dès 2018, puis au moment où il a refusé de céder le pouvoir. Donc on peut en parler, mais c'est une question tabou. Et la santé physique, avant tout, est une question tabou. On peut remonter même à l'ancien régime. Et la presse a toujours eu pour rôle, aux yeux des politiques, de célébrer la santé des monarques, puis celle des présidents, surtout lorsque le pouvoir est incarné, personnalisé. C'est pour ça qu'on a, sous la Ve République, à ce point d'anti sur la santé de Pompidou, sur celle de Mitterrand, ou sur celle de Chirac, entre 2005 et 2007.
Il y a une nouvelle transparence, il y a une tendance en tout cas à aller vers la transparence, ou pas ?
Alors je pense qu'on ne sait pas encore si c'est transitoire ou définitif, mais il y a eu une vraie rupture avec le Covid. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que la pièce Par le bout du nez a joué un rôle assez paradoxal de ce point de vue, puisque le 7 mars 2020, alors c'était il n'y a même pas 2 ans, mais ça paraît une éternité, le président Emmanuel Macron et son épouse étaient allés voir cette pièce, il y avait déjà François Berléand, je crois. Et à l'époque, c'était pour nier la maladie. C'est-à-dire de dire, il faut continuer à vivre, sortir, faire
allons,
la fête.
Allons au spectacle.
Aller au spectacle. D'accord. Donc c'était montrer l'exemple, mais au sens où les Français doivent continuer à consommer et notamment aller au spectacle.
Et parce qu'ils avaient envie de voir la pièce.
Hein, et puis aussi, or, c'est une une pièce. On était nombreux à le noter le côté assez paradoxal. C'est une pièce qui raconte la maladie d'un président. Donc, on avait un président qui, pour nier l'existence d'une maladie, allait regarder une pièce qui racontait la maladie d'un président. Et aujourd'hui, je crois que c'est devenu un enjeu de communication parce que ça fait 2 ans qu'on vit avec ce contexte sanitaire très précis. Et tous les présidents, tous les chefs d'État qui ont nié cette maladie, qui ont nié leur propre maladie, qui ont fait une omerta sur cette question, ça s'est retourné contre eux. Et donc, je crois qu'effectivement, quelque chose a changé. Emmanuel Macron a d'ailleurs mis en scène, enfin, a avoué lorsqu'il était malade, il en a fait une vidéo. Et donc, tout le monde, désormais, est passé à une obligation de la transparence, sauf qu'on ne sait pas si, une fois que la maladie sera terminée, ce qu'on espère tous rapide, désormais, eh bien, est-ce qu'on va revenir à ce qui prévalait à l'époque, oui, c'est-à-dire l'omerta, ou est-ce qu'on sera dans la transparence?
Je voudrais pardon, faire une distinction entre la maladie, je sais pas, le rhume pour la plus petite des maladies, le Covid, actuellement, voire des maladies beaucoup plus graves, comme celle de certains présidents, et le côté psychologique. Ils ont le droit d'avoir des baisses de morale, d'avoir des mini-dépressions, parce que vu la pression, j'imagine que de temps en temps, il y a des dépressions. On peut pas rester comme ça au top en permanence, moralement, physiquement et mentalement.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à l'accepter?
C'est ma question.
Ben voilà, dans les régimes où le pouvoir est aussi personnalisé, la solidité du régime, la solidité du pays, repose sur la capacité du président à exercer sa fonction. Et donc, le jour où il avoue ses faiblesses, c'est tout le pays qui est fragilisé. Donc c'est à nous, en fait, finalement, de changer notre regard sur ces présidents et d'accepter leurs faiblesses.
Mais il ne faudrait pas, avant d'élire qui que ce soit, faire une petite psychanalyse pour savoir qui est fou, qui n'est pas.
Bah, si tu n'élis personne, pas,
pourquoi pas personne. C'est en tout cas une obligation qu'on pourrait s'imposer, mais ça suppose un changement d'époque. Je ne suis pas sûr qu'on y soit prêt.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, Alexis Desrouilles, d'être venu à ce micro. Voici Jérémy Crédville.
Allez, ambiance. Alors, je sais pas vous, mais moi, il n'y a pas un jour sans qu'on m'appelle pas pour me vendre un truc. Alors, disons que, c'est pas que c'est chiant, c'est que...
Allô ? Écoute, j'ai une nouvelle pour toi. Une isolation à 1 euro pour ton toit.
Ah oui, d'accord, c'est l'arnaque de la dernière fois ? Bon, je vous le dis, vous commencez à me faire chier. Hein. En plus, je suis sur Bloctel. Et puis, je connais Nagui, vous savez, vous connaissez Nagui ? Oui ? Vous voyez qui c'est ?
Oh Nagui, je suis comme lui, je suis quelqu'un d'insistant, un charlatan.
Oh. Dis donc, il a fait quelque chose à votre maman, Nagui ? Non, parce que c'est mon patron, donc vous lui devez le respect. Et surtout, je crois qu'il ne sait pas que ça fait 4 ans que je suis là.
Raconte-moi, comment est ta maison ? N'as-tu vraiment pas besoin d'isolation ?
Non mais c'est bon, je reconnais votre voix. La dernière fois que vous m'avez appelé, c'était pour le CPF là. Je m'en tape de mon compte pour la formation. Vous comprenez ça ? Mais franchement, il y a vraiment des gens qui vous disent d'accord ?
Oh oui, on a pas mal. Je fais ça depuis longtemps. Il y en a qui tombent toujours dedans.
Ah ouais ? Non, c'est quand même épatant. Enfin, tu me diras, il y a la fin du pass vaccinal juste avant le premier tour des élections. Il y a des gens qui pensent que c'est juste pour raison sanitaire. C'est fou, hein ?
Le téléphone voleur, il t'appelle 12 fois avec jamais le même number. T'en as plein le postérieur.
Oui,
le téléphone voleur, oh, oh, ne décroche pas si c'est un 09 de Haute-Savoie. Savez-vous que vous avez de la chance? En ce qui concerne le chauffage, l'État prend en charge.
Ah oui, mais pour qu'ils prennent en charge, faut gagner moins que le SMIC et être propriétaire. T'en connais, toi, des banques qui prêtent aux pauvres pour qu'ils puissent acheter une maison ? Puis ça marche que pour les grandes villes.
Attends, j'ai une aubaine pour l'électricité. Je m'y connais.
Oui.
Oh, tu seras zen.
Non, quelle horreur.
Non, mon cul. L'autre fois, vous étiez un fournisseur d'électricité qui disait que je payais trop cher mon électricité. Au final, quand vous m'avez demandé qui était mon fournisseur d'électricité, bah, c'était vous. Bon.
Le téléphone frotteur.
Oui.
Il ne te lâche pas. Plus lourd qu'un cartable de sixième, le colporteur, tu veux qu'il meure,
oui.
Téléphone menteur, Oui, ça casse les noix, plus collant qu'un siamois ou qu'un témoin de Jéhovah. Lâche-moi, oui, le téléphone à 11h. Tu veux lui péter les doigts, le noyer dans son bain, le foutre sous un train, un bon pugilat, oui, un bon pugilat, une clé de bras, un silenciste dans les parties, et s'il te convertit, alors tant pis.
Au revoir, monsieur. Bonne soirée.
Faites-vous. Il est midi.
Oh, merde.
Bravo, Jérémy Gradier. Yeah.
Et Jérémy, ce soir, tu seras à Cessin, oui. Demain à Bourg-les-Valence, samedi à Avignon, dimanche Saint-Étienne-sur-Seine.
Et pendant que tu chantais, je vous jure que c'est vrai.
Claude-François a appelé.
Non, je reçois un texto. Il y a écrit votre solde CPF est de 304.
Tu vois.
Ah, sérieux.
Formidable. Pile, c'est trop synchro.
Bien joué, Jérémy. Il faut changer de métier, en fait.
De quoi?
C'est un appel.
C'est ça. Formation continue.
Oui, je veux parler de Christiane Taubira, Cri-Cri d'amour. Elle a 73 parrainages. C'est nul. Il en faut 500. Alors, je vais faire un appel pour la sauver.
Avec Alain Cadeau-Boudadi, Morgane Bellignan, Florence Mendel, Jérémy Crédville, Jean-Louis Pastureau, Daniel Morin et nos invités Antoine Duléry et François Berléand. Ça s'appelle Par le bout du nez, une adaptation donc d'une pièce espagnole par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. C'est mise en scène par Bernard Murat. C'est au théâtre Libre, Par le bout du nez, qui avait démarré avant le Covid, qui a essayé de reprendre pendant le Covid et qui reprend là maintenant. Enfin bref, malgré ces allées venues d'autorisation de jouer ou pas, vous allez découvrir à partir, je crois, de la semaine prochaine, un public sans masque dans les salles, puisque
quoi
à nouveau,
ouais,
je crois.
Oui, oh, mais j'étais habitué.
Oui. Bah, maintenant, ils pourront peut-être le remettre. J'en sais rien. Est-ce que ça va changer pour vous?
Non,
je sais pas si ça va changer.
Non, mais c'est agréable de voir les gens sans masque.
Je crois que c'est le 28 février. Pas exactement.
Si ça va changer. Vraiment, il y a un truc qui est formidable avec. Enfin, bon, c'est vrai que moi j'étais au théâtre et je portais un masque, c'était pas très agréable. Mais les gens toussent pas. Quand il y a un masque.
Ah oui, oui, parce que
ça, c'est complètement différent. Ah, ouais. Hein, t'as remarqué, les gens ne touchent pas,
c'est vrai. T'as raison.
Parce que d'abord, il y aurait des regards bizarres sur eux. Et ça, c'est.
Ah, mais assez étonnant. Il serait abattu de mi-balles dans le corps.
Donc c'est très étrange, mais. Parce que normalement, c'est.
Non, et puis si on tousse dans un masque, c'est dégoûtant.
Voilà, c'est ça.
Donc il y a des gens qui.
Non, mais même au quotidien, plus le masque, moi, je me rends compte que parfois, par fainéantise, je sais pas que je souris pas, mais je peux faire une grimace et le masque me cache. Pour bailler, il y a un truc on n'est pas
besoin. Tu mets plus
obligé
bouche,
de faire attention à son image. Il y a quelque chose de reposant aussi avec le masque.
Les dents tous les jours avec.
Ça c'est Daniel.
Par le bout du nez, cette pièce qui met en scène, donc on le rappelle, un psy qui vient analyser. Il n'a qu'une heure pour faire ça, le temps de la pièce, j'allais dire, mais qui vient analyser un président de la République récemment nommé avant son premier grand discours devant la nation. Il a intérêt à assurer, il a intérêt à sauver son image, à être le plus rassembleur possible. Malheureusement, il s'est découvert en répétant, en relisant son texte, un tic, une démangeaison, mais une démangeaison qui le pousse à faire une grimace très particulière et qui serait évidemment raillée sur les réseaux sociaux. Ah, ses adversaires en profiteraient, il perdrait tout le crédit de son élection, donc il a besoin d'être soigné. Et de là arrive cette intervention d'un psy qui ne va pas lui donner quelques produits chimiques pour le soigner, mais va plutôt aller vers le fond du problème. Parlez-moi de votre enfance, parlez-moi de votre papa, de votre maman. Non, pas des beaux-parents, parce que ça, vous aimeriez bien.
J'aimerais bien, il y aurait des choses à dire.
Sur les beaux-parents.
Mais il n'en veut pas, lui, des beaux-parents.
Et c'est là où c'est extra. Vous n'allez pas faire des photos pendant qu'on fait l'émission
de radio, François Berléand.
Non, mais sans blaguer.
François, il est touriste.
En plus, c'est un selfie. C'est un selfie, en plus.
De la couleur du pull de Nagui.
Mais c'est un bleu.
C'est un bleu marine. C'est très joli.
Non, c'est lui qui est bleu marine.
Ça s'appelle bleu invendu.
T'es bleu roi.
Non, mais voilà, il se fabrique
collecte des souvenirs, il prend des photos.
Voilà. C'est l'invité, il fait ce qu'il veut.
Mais oui. Je fais ce que je veux, je suis invité.
Oui, oui. Est-ce que... oui, mais je pense que vos producteurs vont vous parler de cette excellente promotion que vous faites en ne répondant pas aux questions et en faisant des photos. On dirait que papy est sorti de l'EHPAD et découvre un show radio.
Il va plus revenir.
D'ailleurs, tiens, à propos de maison de retraite, vous faites le beau salaud, vous, dans la maison de retraite.
Oui, je suis très content de faire un rôle de salaud.
On en a parlé
hier. Et dans Alors on danse aussi.
Et Liane Rovert.
Oui, ça marche très bien. Je suis très content. Le film démarre très, très fort.
Et vous êtes un salaud aussi dans Alors on danse de Michel Larocque. En fait, vous êtes un salaud dans tous les films.
Je fais tous les salauds.
Finalement, ça me rattrape.
Les salauds. Hein, ça me rattrape.
Non, mais c'est très. Tu fais les salauds. C'est moi, les salauds.
Oui, mais maintenant, je prends ta succession, mon cher François. Maintenant, je joue les salauds.
Vous n'êtes pas mort.
Non, mais j'aime bien jouer des rôles de. Toi, tu jouais des rôles de fumier, de militaire, et moi, j'aime bien jouer des rôles de salaud. Mais c'est vrai que dans Maison de retraite, c'est un vrai pourri. Mais c'est sympathique, un pourri sympathique.
C'est ça.
Pareil.
C'est ça. Et d'ailleurs, on se demande si ce président de la République, s'il est pourri ou pas, s'il est droit dans ses bottes, sans mauvais jeu de mots, ou s'il est extrêmement humain, finalement, malgré tout ce qu'il a pu vivre, et s'il veut le bien de la nation, parce qu'il pense beaucoup à sa pomme.
Oui, c'est quand même un peu une caricature. Mais c'est vrai qu'il pense beaucoup à sa gueule, puisqu'il dit on va rien faire, mais on va bien le faire. Donc, au moins, il ment pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il est, il est comme un président. Il a ses failles, ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Il est pas tout blanc, mais c'est pas non plus un extrémiste.
Le couple présidentiel est donc venu vous voir. Quels ont été les commentaires dans les loges, François Berléand?
Il était pas.
Je pose la question, François Xavier de Maison.
Non, ils étaient. Ils avaient beaucoup
de
rire.
Il est insupportable. Tu comprends pourquoi je l'invite pas?
Ça n'a strictement rien à voir avec
ça. Il vous a pas parlé de la véracité ou en tout cas il a pas eu.
Non, parce qu'il a pas eu ce problème là, mais c'est vrai que c'était.
C'est crédible.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que... Non, mais ils ont ri, quoi. Mais c'est une blague, de toute façon, pièce.
C'est une blague, mais on peut se poser la question. Non, mais sur simplement le fait d'avoir, je sais pas moi, un orgelé, un bouton qui sort ou n'importe quoi, on n'imagine pas qu'un président de la République puisse avoir ce genre de mots que n'importe qui au quotidien pourrait avoir sans déranger qui que ce soit sur une.
Mais on a le même problème, nous, les acteurs. Si on tourne un. Du jour au lendemain, si on a un orgelé, on peut pas tourner.
C'est vrai.
Alors faut changer les axes, etc.
Sauf que la grosse différence, voilà, c'est qu'on peut reporter un plan de tournage, une feuille de service.
Si un président
doit faire une déclaration à un instant T, on va pas
c'est
dire.
C'est compliqué.
Vous passerez que l'orgelé sera passé.
Mais moi, c'est l'objet de la pièce.
Ce que j'aime dans la pièce, c'est qu'effectivement, on se rend compte que la solitude du pouvoir, et puis le fait qu'effectivement, s'il y a un problème
physique ou mental,
médical, etc., c'est grave pour la
nation,
quoi.
Exactement. C'est extrêmement drôle, malgré
moins embêtant pour les Américains, parce qu'il y a un vice-président qui peut prendre la succession.
C'est le président du Sénat.
Oui, mais c'est en cas vraiment d'absence totale de... Il y a eu ça avec je sais plus qui, quel président de la République américaine, qui a été remplacé pendant une semaine par son vice-président,
quand
Pompidou est mort,
c'est à la mort là en France.
Par le bout du nez, c'est au Théâtre Libre, c'est extrêmement drôle malgré la présence de François Berléand.
Je fais beaucoup rire, c'est moi qui fais le plus rire.
Et grâce à la présence d'Antoine Dullier.
Voilà, l'enlever de la bouche. Titre, voici Tanguy Passion. Titre.
Ce métier de chroniqueur humoristique, finalement, est assez nul. On gagne bien, mais c'est pas non plus la folie. J'ai toujours pas ce F12 à Saint-Trope dont je rêvais. Les fois, je veux voir Patrice Lafont jouer au boule. Je dois faire l'aller-retour depuis Paris dans la journée. Ça fait cher la boule. Je sais, titre, arrêtez avec ça. Ensuite, c'est répétitif. On se dit super, je vais vivre la vie d'artiste. Daniel Morin va me traîner dans des clubs à filles. Je vais sniffer les poils de sa barbe pour me défoncer aux miettes de pain de son casse-croûte coincé dedans. Finalement, Morin, il est tout pépère. Hier, c'est véridique, la pause café, on a même pris deux chocolats. Quand le matin, tu tournes chocolat, c'est que t'as perdu tout espoir d'avoir à nouveau la forme un jour. Les EHPAD sont remplis de gens qui boivent du Nesquik en criant pitié que la mort vienne me chercher avant que ces salauds mettent encore slam sur France 3. Et puis le matin, on badge. Et ça, c'est vraiment qu'on a la vie de tout le monde. Est-ce que Pete Doherty, il badge? Non, il est occupé à vomir. Est-ce que Gilbert Montagnier, il badge? Oui, mais sur le cendrier à l'entrée de la boîte, donc il reste dehors. Et puis, dernière chose pas terrible quand on est chroniqueur, c'est qu'on se prend des tas de commentaires sur le net. Déjà, moi, je suis objetisé. Ces commentaires sur mon corps, je te veux, ces épaules, j'aimerais chronique pour que tu me tiennes. Ça va, quoi. Hein, et puis, il y a la haine. Parce que des gens vous écrivent qui vous, pour vous dire qu'ils ne vous aiment pas. Moi, j'aime pas la pizza à l'ananas. Ben, est-ce que je vais devant Pizza Hut pour dire franchement, je suis déçu? Non! Exemple, lundi, j'ai fait une chronique sur Valérie Pécresse. Vous savez, la dame dont le pupitre en meeting dégage plus de prestance qu'elle. Hein, du coup, les fabricants de pupitres, ah ben, l'adorent. Hein. Dans le monde du pupitre, on l'appelle madame. Eh ben, il faut voir les commentaires que j'ai eus sur ma page Facebook. Oui, c'est faux. J'ai connu un être ayant moins de charisme que Valérie Pécresse. Il s'agissait de Fifi, le hamster de ma nièce. Bon. D'autant que je pense sincèrement que le charisme en politique, aujourd'hui, c'est même plus le sujet. Enfin, je rappelle que Macron a été élu il y a 5 ans, alors qu'en meeting, il couinait comme un petit porc qu'on vient de castrer. Un soir, il a aperçu Justin Bridoux au premier rang du meeting, qui lui disait, toi, demain au plus tard, t'es une saucisse sèche. Non, mais le charisme, c'est une idée ancienne. Qui, en 2022, a du charisme? Anne Hidalgo, on a autant envie de la suivre qu'un exhibitionniste qui vous fait un clin d'œil avant de se cacher dans un fourré. Fabien Roussel, il est sympa, mais quand un copain le rejoint au resto, il lui file la clé de sa bagnole pensant que c'est le voiturier. Macron, il ressemble à l'ex-leader d'un boys band vieillissant dont les autres membres se seraient donné la mort après avoir écouté leur chanson. En vrai leader charismatique, il y a Mélenchon. Voilà, lui a vraiment de l'épaisseur, on dirait une crème fouettée non allégée. Mais il trouve moyen de se saboter lui-même en ajoutant 1000 effets spéciaux dans ses meetings. Il diffuse même des odeurs dans la salle. Il a réussi à avoir le même rendu olfactif que les Bodins avec leurs bêtes, mais tout seul. Et puis prenez Christiane Taubira. Ah là là, cri-cri, qu'est-ce qui s'est passé? Ici à Inter, tout le monde parlait d'elle avec la voix qui tremble. On la tenait, notre Rosa Parks. Les gens me disaient, elle va sauver la gauche. Je répondais, la quoi? C'est normal, elle parlait bien, quoi. 14 citations d'auteurs par phrase. Un jour, dans son hall d'immeuble, elle a retrouvé François Bunel de la Grande Librairie, nu, offert, avec juste un livre, lui cachant le sexe, un format poche, malheureusement, pour lui. Mais ensuite, on a essayé de la faire parler des dossiers. Aïe, 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 c'était tellement vide que parfois la Rousseau passait derrière elle en disant, eh ben, elle est longue, hein, cette traversée du désert. À la Fondation Abbé Pierre, on lui avait parlé aide au logement. Elle avait répondu, non, mais en fait, en même temps, elle était en train de se dire, qu'a dit Aimé Césaire sur le logement? Bon. Alors qu'elle a un programme. Mais elle a du mal à le défendre parce que ce qu'on veut voir d'elle, c'est cette dame lettrée qui rend humide les profs de français. On s'attendait à la voir habillée entièrement de bécherel, comme Lady Gaga, il y a longtemps, avec sa robe en viande. Alors certes, elle reste lyrique pour parler de sa candidature. Elle dit, je prétends à la magistrature suprême. C'est beau, quoi. Enfin, pour la même ambition, Jean Lassalle dit, je poserai bien mon feu dans le fauteuil à Macron. Mais pour l'instant, ça prend pas, Taubira. Le parti radical de gauche, dont l'ensemble des membres peuvent tenir dans un colis Amazon, l'a lâché. Place publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann vient d'annoncer qu'il ne soutenait alors personne. Et lui, il a renoncé à tout. Mais surtout, Taubira n'a que 73 signatures d'élus. Il en faut 500. Aïe. Anne Hidalgo en a quand même plus de 1000. Si, c'est la seule qui aura plus de signatures que de voix au premier tour. C'est un nouveau concept. Et donc, Christiane Taubira, la pauvre, en appelle au maire. Parrainez-moi, elle dit, par pitié. Elle a écrit une lettre intitulée SOS. Elle écrit, j'ai remporté la primaire populaire qui a réuni plus de 400 000 citoyens. Cette légitimité m'honore autant qu'elle m'oblige. Alors, pour les noms littéraires, traduction, elle est contente. Hein. Mais elle se rend pas compte que 400 000 gus qui signent sur le net, ça n'a pas une valeur dingue. La moindre pétition pour un footballeur qui tape sur son chat, ben pour qu'il ait plus de chat, ça fait 1 million, quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'elle va faire si elle n'a pas ses signatures, la malheureuse? À Livre Hebdo, ils ont déjà un rédacteur en chef. Donc, chers élus, vous avez raté les pandas du zoo de Beauval, et ben vous avez cette chance unique de parrainer une femme de gauche. Il y en a moins que de pandas.
Merci Tanguy Passion.
Et Tanguy, on se retrouve le 2 avril à Pont-l'Abbé dans le Finistère.
Oui, la pièce de théâtre par le...
Il fait les bravos.
Je l'aime, on peut le garder.
Il fait les bravos. Il cherche ça depuis tout à l'heure. Mais, et il sait plus comment l'arrêter par contre.
C'est pour faire du bruit, c'est pour faire un bravo.
Vous pouvez, vous pouvez mettre sur silencieux voilà. Votre téléphone s'il vous plaît. François. François, éteignez votre téléphone.
Ça ne dérangera plus.
Mais pas moi.
L'émission est particulière aujourd'hui.
C'est du faux.
Par le bout du. même sur Vivoire, ça marche. Par le bout du nez, François Berléand et Antoine Duléry au théâtre Libre jusqu'à la fin du mois d'avril. Et d'autres événements culturels, Leïla.
Si je vous dis Vincent Lacoste, François Cluzet, Louise Bourgoin, William Lebguil, c'est le casting de quel film et de quel réalisateur surtout?
C'est un remake. C'est une suite.
Le film va s'appeler Un métier sérieux. Wow, et le réalisateur
connu
que nous avons déjà reçu, dont nous avons déjà parlé. On a parlé de ses films.
François
Ozon. Il est aussi sérieux de par sa profession.
Il a fait Robin Lumière.
Ruffin.
Thomas Litley.
Bravo.
Docteur. Ah non, et c'est pas une mauvaise réponse. C'est une très bonne réponse.
Très très bonne réponse. C'est le premier film de Thomas
Hippocrate.
C'est ça.
Absolument.
Qui est un véritable médecin.
Il avait fait aussi Médecin de campagne. Et en fait, il retrouve une partie du cast parce que Vincent Lacoste, William Lebgill était avec lui dans le film Hippocrate, Louise dans la série.
Il fait Docteur Quinn.
Et enfin, François Cluzet dans Médecin de campagne. C'est rare finalement cette fidélité aussi déployée quand même dans le métier, ces réalisateurs qui... Alors on connaît des réalisateurs qui ont des familles de comédiens. Est-ce qu'il y a des réals avec lesquels vous avez beaucoup collaboré, vous ?
Moi, oui. Claude Lelouch. J'ai fait 6 films avec Claude Lelouch.
À quoi ça tient, cette collaboration et cette récurrence ?
Au cachet, non, des Antoine du
cachet, Non, parce qu'il aime bien travailler avec la famille. Moi, j'ai fait un premier film avec lui qui s'était très, très bien passé. Puis après, il aime bien les gens qui aiment bien improviser comme ça. Puis grâce à lui, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo en 94. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait. Voilà, donc j'ai fait après 6 films, mais moi, j'adore tourner avec lui.
Et vous, François, on a parlé de la collaboration...
Pierre Jolivet, il y a Laurent Edman...
Et puis il y a Sébastien Théry au théâtre. Vous avez fait plusieurs pièces avec lui.
Ce sera la quatrième. Je vais faire une quatrième pièce avec lui.
Et
à quoi ça tient ? On parle alors d'amitié, d'entente, mais est-ce que c'est vraiment que ça ?
Au début, c'était des très bons dîners. J'étais un très bon cuisinier. Oui, au début, avec Laurent Edman notamment.
Ouais.
Et puis, c'était pas le talent, normalement, là, pour le coup.
C'est-à-dire qu'à la fin du repas, un peu sous, le mec dit on va travailler ensemble.
C'est ça. Après la 10e bouteille de pinard, puisqu'à l'époque, on pouvait boire, on avait le droit.
On peut boire, mais avec modération.
Ouais. Oh non!
Oui, mais à l'époque, c'était pas modération. C'était formidable.
On est passé, de trois verres, un verre ça va, deux verres ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Ah ouais. Un verre.
Oui. Un verre, bonjour les dégâts, terminé.
C'est le dégât.
Oui, c'est ça, c'est pour ça. Avant, c'était 0,8. Avant, on était bourré à 0,8. Et maintenant, c'est 0,30.
Non, mais c'est plutôt pas mal.
Faut passer la frontière en Belgique.
Non, je suis renseigné.
Enfin, c'est sympa comme ça. On sait que Laurent Edman et Jolivet
est alcoolique. François Bellon, on le savait déjà.
Ça, on savait. Oui.
D'autres.
C'est un
grand amateur de vin, ça.
Ok, autre question. Je compte 130 millions d'abonnés à travers le monde. Qui suis-je ?
Moi, une association ? Un chien ?
Ronaldo ?
Non.
Une plateforme ?
Ce n'est pas une personnalité.
Une plateforme de diffusion de séries, tout ça ?
Absolument.
Netflix ?
Non.
Amazon Prime ?
Amazon Prime.
Non.
Disney ?
Disney Plus. Absolument. Pour vous donner une idée, donc Disney Plus, c'est 130 millions d'abonnés. Vous avez évoqué Netflix, c'est 220 millions. Amazon, difficile de le donner parce que l'offre vidéo est comptée dans l'offre Prime générale.
On reçoit des objets, tout ça.
Tout ça est un peu mélangé, mais en tout cas, 130 millions d'abonnés pour Disney Plus, c'est 12 millions de plus en un trimestre. Donc ils ont vu vraiment considérablement augmenter leur nombre d'abonnés. Ça tient souvent à des programmations, à des succès de films. Là, récemment, c'était Spider-Man No Way Home qui a permis, sans doute, coproduit avec la Sony, d'augmenter le nombre d'abonnés. Est-ce que vous avez certains de vos films sur des plateformes ? Vous avez des films dans lesquels vous avez joué sur des plateformes ?
Certainement.
Je vous vérifie. Vous regardez pas ?
Moi, j'avais le Bazar de la Charité, la série que j'ai faite, qui a été rachetée par Netflix.
Avec Julie Debonin, Florence Pernel.
Florence Pernel qui faisait
Audrey Fleurot. Audrey Fleurot aussi.
Audrey Fleurot.
Stéphane Guillon aussi. En ce moment, je suis pas embêté.
Parlez pas tous en même temps.
Il y avait du monde. Stéphane Guillon aussi jouait là-dedans.
Oui,
exactement. Stéphane Guillon jouait là-dedans.
Et vous, François, vous avez quoi sur les plateformes ?
J'ai un truc, parce que j'étais un escroc, donc j'ai fait sur Tinder, j'avais fait une escroquerie sur Tinder.
Non, mais on parle
de fiction d'abord. C'est une documentaire qui est fait sur moi.
Et vous êtes consommateur ?
Faut voir ça, ce truc-là, c'est Tinder, extraordinaire.
L'arnaque
Tinder. Sur Tinder, c'est sur Netflix, hein, pardon, je fais de la pub pour Netflix, mais franchement, le documentaire est extraordinaire. Quoi. C'est des femmes qui se sont fait escroquer sur Tinder par un voyou, quoi.
Oui, des femmes, quoi.
Et c'est extraordinaire. Mais vraiment, c'est inouï comme...
Arnaque sur Tinder, c'est le titre du
Tinder. D'accord. Mettez Tinder,
le fameux Simon.
Dans l'avenir, vous serez prochainement François Berléand à l'affiche de La Classe Internationale.
Ouais.
C'est ça. Avec Audrey Fleurot, dont on vient de parler d'ailleurs. Quel est votre personnage ? Parce que classe,
c'est le voisin qui aide l'héroïne à...
Mais un gentil, un méchant...
Un gentil, gentil, très gentil.
Ah bon ?
Très gentil, oui.
Étonnant.
Oui, oui. Bah oui, bah ça arrive. Hein.
Oui.
Il me prend mes rôles maintenant, donc moi je prends les rôles. Je prends les rôles d'Antoine, le gentil.
Il y a également le Magnificat de Virginie Sauveur.
Mais oui, j'adore Virginie Sauveur.
Oui.
Ouais.
Virginie Sauveur. Oui, alors Magnificat, ça je viens de tourner, donc ça, c'est, je ne sais pas quand ça sortira.
D'accord.
Où je joue un évêque. Oui, c'est assez particulier.
Et
je joue un évêque.
Et l'histoire,
la robe
super.
Vous va bien
pas vraiment. Non, là j'ai des photos. Pas montrer la photo, mais bon, pour les auditeurs,
c'est. Il s'aime ou presque également. Vous serez à l'affiche de Last Dance aussi. Ah, oui, vous tournez énormément. Ouais. Et ouais. Vous avez déjà en tête une prochaine pièce de théâtre, en plus de Par le bout
du
nez.
Oui, alors ça, c'est en 2023. D'accord. Parce que là, je fais une tournée de Par le bout du nez. Après, je fais une tournée de 88 fois l'infini que j'avais joué avec Arestrop. Et après, je jouerai cette pièce en septembre.
Et à ce micro, vous aviez employé l'expression de ne pas être bankable, alors que vous êtes dans tous ces films et avec tous ces projets. Donc, vous êtes super bankable.
C'est-à-dire, j'ai pris la place d'eux à chaque fois.
Ah, oui. Ce sont des défections.
Ce sont des défections.
Ah, vous êtes
l'équipe. Moi, je suis la comédienne défection. Le premier rôle principal de Humphrey Bogart, il était septième sur les listes. Il y en a six défections et
le karma. Humphrey
Bogart.
Mais non, mais voilà.
Bon, maintenant, je suis un peu vieux. Maintenant, c'est fini tout ça.
Mais ce qui devait arriver. Et quant à vous, Antoine Dulé, on a évoqué Maison de retraite qui est sorti hier avec Kev Adams, ce film de Thomas Gilou. On a évoqué Alors on danse de Michel Larocque. Ouais. Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Jeanne Balibar.
Jeanne Balibar, oui, il y a
Patrick
plein de gens formidables.
Un joli casting.
Voilà.
Et vous préparez votre premier film en tant que réalisateur.
Je le prépare pas encore parce que c'est compliqué les financements, mais effectivement, j'ai le projet de réaliser un premier film que j'ai écrit avec Guillaume Laurent, qui est un grand scénariste, puisque c'est le scénariste de tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Donc pour l'instant, c'est encore dans les tiroirs. J'espère bien y arriver. Voilà.
Et votre spectacle, on l'a évoqué
qui continue.
Tout à l'heure, Duléry nous refait son cinéma avec des imitations.
Voilà,
avec
un hommage à tous les acteurs qui
vous serez à Montceau-les-Mines le 25 février, le 2 avril à Charlie, le 8 avril à Louvre, le 13 avril à Saint-Astier, le 15 avril à Montmélian et les 26 et 27 avril à Lyon.
Exactement.
Des excuses à présenter.
Bien sûr, déjà désolé pour le public français qui a découvert qu'il devait supporter la pièce 30 minutes de plus que la version originale espagnole. C'est vrai que c'est dégueulasse. En plus, les Espagnols, ils ont le soleil, les tortillas. Oui, Nagui, oui, vous avez raison. Les femmes à barbe. Viva España. Désolé pour François-Xavier Demaison, dont la carrière, le talent, le parcours et l'avenir ont été salopés. C'était hors antenne et par son successeur, Antoine Duléry. Ah, la grande famille des comédiens. À ce propos, François Berléand ne vous a pas complètement soutenu. Il vous a même mis la tête sous l'eau, pour ne pas dire un coup de pioche dans le dos, voire un coup de pelle dans la gueule. Ouais. Désolé enfin pour l'attaché de presse de la pièce, le pseudo-rédacteur en chef de la bande originale. Bref, toutes les personnes qui ont perdu leur boulot durant l'émission. On n'est pas chez Trapenard ici. Là, c'est le domaine de l'excellence, pas d'à peu près, l'exigence et surtout la qualité et le talent des invités. Sauf un.
Vous jouez donc ce par le bout du nez, cette pièce, François Berléand, Antoine Duléry. Est-ce que lorsqu'on reprend une pièce comme ça, lorsqu'on s'arrête, est-ce qu'on refait des répétitions, des italiennes? Est-ce qu'il y a un travail qui est totalement différent
J'ai tout repris à zéro.
J'ai tout repris à zéro, oui. C'est compliqué, oui.
J'ai tout repris à zéro et assez rapidement. Mais François, il est obligé de s'y recoller, bien sûr.
Il était bon camarade pour une fois?
Très bon camarade, super camarade. Non, c'est un très bon camarade.
On va s'arrêter là.
Parce que les gens vont finir par
croire. Non, c'est un bon camarade. Il m'a bien.
Faut pas dire ça tout le monde.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, il faut dire la vérité.
Pendant la deuxième guerre, il y a eu quand même des moments un peu. C'est vrai.
Il fallait bien bouffer.
Il n'y a pas à avoir la guerre aussi. C'est ça.
Des moments d'égarement.
Merci Antoine Duléry. Merci François Berléand. Par le bout du nez, c'est au théâtre Libre.